journal. Hélène Philippe, bonjour.
Bonjour à tous. Du Prozac pour soigner le Covid. Les antidépresseurs diminueraient de 30% le risque d'hospitalisation. Nouvelle étude prometteuse que l'on vous détaille dans un instant. Quitter l'aéroport au plus vite. L'appel de plusieurs capitales cette nuit aux Afghans de Kaboul à cause d'une menace terroriste. Nous serons en direct. Dans ce journal encore, le temps est-il venu d'augmenter les salaires pour réussir à recruter? Les patrons s'y préparent, mais pas dans tous les secteurs. La rentrée repoussée dans les Antilles et en métropole. À une semaine du jour J, Jean-Michel Blanquer en précise tous les contours ce matin.
À 8h20, la rentrée littéraire dans le grand entretien. Comme tous les ans, France Inter vous propose sa sélection de 10 romans en partenariat avec Le Point cette année. Nous serons avec Jean-Baptiste Delamo pour son 5e livre, Le Fils de l'Homme. Et puis Santiago Amigorena poursuit son œuvre autobiographique commencée il y a 25 ans, Le Premier Exil. L'enfant, les pères, la transmission, la fatalité de la violence. Amis auditeurs et lecteurs, on vous attend au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
Et si un traitement du Covid se cachait dans les antidépresseurs? La lutte contre la pandémie passe par les vaccins, mais aussi par les médicaments sur lesquels de nombreux laboratoires travaillent. Et une nouvelle étude vient donc confirmer les signaux repérés l'an dernier. Des médicaments comme le Prozac pourraient bien empêcher la maladie de dégénérer en cas grave. Les explications sont signées Sophie Bécherel.
C'est une certaine classe d'antidépresseurs. La fluoxétine, connue sous le nom commercial de Prozac, et la fluvoxamine, un équivalent américain baptisé Floxifral. Les études in vitro comme les essais cliniques convergent. Le dernier en date de phase 3 est signé d'une équipe canadienne. Elle a comparé sur 1400 personnes l'effet de la fluvoxamine et celui d'un placebo. Nicolas Hertel est psychiatre à l'hôpital Corentin-Selton d'Issy-les-Moulineaux. Il est l'un des premiers à avoir remarqué l'effet de ces antidépresseurs sur le Covid.
La prise d'un traitement par fluvoxamine chez des patients ayant une forme avérée de Covid, testée par PCR et des symptômes, serait associé à une réduction substantielle du risque d'hospitalisation et d'aggravation clinique.
30% de risque en moins. L'étude n'a pas encore été relue par les pairs, mais pour Nicolas Hertel, ce résultat est très prometteur, d'autant qu'une équipe allemande a compris le mécanisme en jeu. Ces antidépresseurs bloquent une enzyme qui fabrique du gras.
En réduisant ce sous-type de gras, ça empêcherait le virus de rentrer dans les cellules et donc de s'y répliquer. Ça aurait donc ainsi un effet antiviral et ça aurait également par là même un effet anti-inflammatoire secondaire en réduisant l'inflammation associée aux formes sévères du Covid.
Reste à répliquer ces essais cliniques sur l'autre molécule, le Prozac. Si l'effet se confirme, ce serait la première fois qu'on disposerait d'un médicament bon marché, accessible donc aux pays pauvres, un médicament bien toléré et à la durée du traitement n'excédant pas 2 semaines.
D'autres traitements sont en train d'être testés, antiviraux, anticorps monoclonaux, et des tas d'autres molécules connues sans que les essais cliniques soient encore terminés. Le Covid et la rentrée repoussée dans les Antilles au 13 septembre. À quoi va-t-elle ressembler en métropole? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, détaille tout le protocole ce matin 10h. Attendu aussi sur la question des salaires des enseignants. Des primes de 57 euros net par mois pour les plus jeunes à 29 euros pour les milieux de carrière seraient annoncées selon les syndicats qui étaient reçus hier soir. Les salaires vont-ils grimper face aux difficultés de recrutement des entreprises? Le patron du MEDEF le pense, les syndicats le souhaitent. Ce ne sera pas pour tous et dans tous les secteurs. Mais à écouter les chefs d'entreprise hier aux universités du MEDEF et au micro de Maxime Deps, c'est bien une possibilité.
C'est une tendance marquante depuis quelques mois, mais qui est en train de s'accélérer fortement.
L'homme qui parle, c'est Pierre-Alexandre Pillet, aménageur d'espace pour les entreprises. Il conçoit des bureaux et en visite pas mal à Paris et ailleurs, ce qui lui permet d'être aussi affirmatif, d'autant encore recherche lui-même d'architecte d'intérieur, de chef de projet. Ce patron dit n'avoir aucun tabou en termes de salaire, pourvu que le candidat soit le bon.
Franchement, on a une base qu'on se donne et en fait, in fine, cette base est souvent dépassée parce que sur un profil intéressant, motivé et qui correspond bien aux valeurs de l'entreprise, on est capable d'augmenter le salaire de cette personne parce qu'on sait que c'est la valeur forte de l'entreprise.
Karl Rigal est de son côté directeur marketing de Steady.io, une start-up en recherche de candidats dans le secteur du numérique. Pour lui, un meilleur salaire n'est pas toujours la panacée.
Sur les métiers en tension, sur les métiers pénuriques où l'offre de compétences est inférieure à la demande, la variable d'ajustement est souvent le salaire, mais pas seulement. L'équilibre vie pro-vie perso est plus en plus importante. Encore une fois, il y a le salaire, mais il n'y a pas que ça.
Sauver Calatayo en sait quelque chose. Il dirige une société de BTP du côté de Marseille.
Des équipes qui travaillent au sein de mon entreprise, mais je peux vous dire qu'ils sont bien payés à tel point qu'il n'y a pas de turnover dans l'entreprise. Et pour autant, on est en carence de profit.
J'aurais beau proposer des salaires un peu plus élevés, dit-il en substance, les candidats ne se presseraient pas davantage sur mes chantiers.
Le quoi qu'il en coûte qui a permis à l'économie de tenir, c'est bien les bains finis. Bruno Le Maire l'a aussi rappelé hier devant les patrons réunis à l'université d'été du MEDEF. On passe à du sur-mesure pour maintenir une aide au secteur qui reste fragile. Réunion prévue lundi prochain quant à un élargissement du pass sanitaire en entreprise ou au-delà de celle qui accueille du public. Ce n'est pas d'actualité, assure ce matin le Premier ministre Jean Castex.
8h06 en Afghanistan, mieux vaut ne pas rester dans le secteur de l'aéroport de Kaboul.
C'est en tout cas l'appel quasi simultané cette nuit de plusieurs capitales, Canberra, Londres, Washington. La menace terroriste déjà évoquée ces derniers jours se précise-t-elle alors que des milliers d'Afghans se massent toujours près des tarmacs en espérant fuir le pays? Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
Il est difficile de décrire la complexité et le danger dans nos efforts pour évacuer la zone. Nous opérons dans un environnement hostile et la ville est désormais contrôlée par les talibans avec la possibilité bien réelle d'une attaque de Daesh. Nous prenons donc toutes les précautions, mais le risque est très élevé.
Le chef de la diplomatie américaine cette nuit, et l'on rejoint Vincent Souriot en direct de Kaboul. Vous êtes, Vincent, l'envoyé spécial de RFI, Radio France Internationale. Sur place, avez-vous des explications à cette alerte subite de la nuit, à cette fébrilité?
Eh bien, c'est la question que nos sources se posent ici, d'anciens gros bras de l'armée britannique qui ont gardé des antennes en Afghanistan, qui sont à Kaboul en ce moment et qui disent que ce n'est pas nouveau. On sait depuis longtemps qu'il y a plein de facteurs de risque. La zone proche de l'aéroport, c'est un espace clos. Il n'y a pas de maintien de l'ordre. Les talibans sont débordés. Il y a des civils dans tous les sens, des gens qui dorment sur le trottoir, des voitures qui arrivent, qui s'en vont, des mouvements de foule. Pour un kamikaze, évidemment, c'est l'idéal. Maintenant, ce qu'on nous dit ici, c'est que Daesh n'a aucun intérêt à s'en prendre aux Afghans qui sont les plus nombreux sur place. Ce sont les intérêts étrangers, les occidentaux qu'ils visent. Et on nous fait savoir, par exemple, que l'hôtel dans lequel nous nous trouvons, avec d'autres journalistes, des diplomates et des hommes d'affaires, cet hôtel, paraît-il, serait beaucoup plus intéressant pour ce genre d'opération. Donc la communication d'Anthony Blinken, on imagine bien sûr qu'il ne dit pas ça par hasard, mais c'est une menace latente depuis des semaines. On en parlait déjà alors que les talibans n'étaient même pas arrivés à Kaboul. Donc ça ajoute une couche de stress en ville, alors que pour les militaires, l'approche du 31 août fait déjà largement monter la pression.
Vincent Souriot, envoyé spécial de RFI en direct de Kaboul, merci à vous. Mouvement de foule et tension donc alors que les portes du pays se referment. Paris fera ses derniers rapatriements aujourd'hui et demain, le Premier ministre vient de le confirmer. Beaucoup de témoignages d'habitants dans l'attente, dans l'angoisse à lire sur franceinter.fr. Et en France, certains se mobilisent pour les aider. Un Afghan, étudiant et interprète, arrivé il y a 7 ans, a fait de la supérette de l'un de ses amis à Paris un bureau pour répondre à ceux qui espèrent sauver leur famille. Reportage signé Mathilde Dehimi.
Le flot de messages d'inconnus ne s'arrête jamais sur le portable de Nasrullah.
Aujourd'hui, j'en ai autour d'une quarantaine. Surtout ce qui me touche, c'est cette jeune fille qui m'a envoyé les photos de son bureau dans la ville de Mazar Sharif. Avec peu de moyens, elle a appris le français. Je vais vous mettre.
Bonjour, moi je m'appelle...
Des appels à l'aide désespérés de militants des droits de l'homme, journalistes ou comédiens qui ne sont pas sur la liste des personnes à évacuer.
Pour pouvoir être sur la liste, il faut soit une invitation, soit un visa, ou soit il fallait travailler avec les troupes françaises ou avec des associations françaises.
Alors Nasrullah donne des conseils, transfère des mails.
Je ne peux pas leur dire que je ne peux rien faire. Pour pouvoir monter leur morale, je leur dis au moins... Je vais essayer.
L'étudiant a improvisé aussi une permanence dans la supérette. Une demandeuse d'asile afghane s'assied entre bouteilles d'eau et sacs de riz, sans nouvelles de sa famille, de la minorité chiite, Zahra.
Je suis très inquiète, je n'arrive pas à avoir des nouvelles de ma famille et j'ai peur. Peut-être qu'ils seront tués demain ou après-demain par les talibans. Seul Dieu sait.
Nasrullah ne dort presque plus. conscients que l'horloge tourne jusqu'au 31 août.
Et puis en bref, le rapatrié afghan arrivé en France la semaine dernière et soupçonné d'avoir violé le contrôle administratif auquel il était soumis, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis hier soir. L'étranger nous emmène aussi au Sénégal ce matin, en pleine saison des pluies et d'inondations. Dakar, la capitale, y est habituée, mais la population est de plus en plus exaspérée par la gestion de la situation par les autorités. Omar Ouamane, notre correspondant sur place, a pu s'en rendre compte.
Tu vois, il y a de l'eau partout.
Pour évoluer dans cette étendue d'eau, Joseph a chaussé ses bottes. Son quartier ressemble à un marigot, une eau stagnante depuis plusieurs jours que les sapeurs-pompiers, trop peu nombreux, ne parviennent pas à évacuer.
On ne peut pas aller travailler, on ne peut rien faire. Hein. Chaque année, c'est comme ça.
Et la colère gronde parmi les sinistrés de ce quartier de Kermassar, en banlieue de Dakar. Une exaspération dirigée contre le gouvernement sénégalais, dont les efforts en matière d'assainissement sont jugés insuffisants. Pauline, une enseignante, pointe un autre problème.
Ici, c'est des zones inondables et les gens étaient conscients de cela et ils ont construit sur ces terrains-là. C'est pour ça que nous avons tous ces problèmes-là.
Construction anarchique en zone inondable, une démographie galopante et des infrastructures de drainage des eaux qui ne suivent pas. Résultat, les habitants vivent les pieds dans l'eau. Aminata, l'une des voies du quartier.
On ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer. On ne mange pas bien. Parce que quand tu ne sors pas, tu ne peux pas manger. Si tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas manger. On dit au secours.
Devant la situation, de nombreux habitants ont quitté le quartier en attendant que le niveau de l'eau baisse alors que de fortes pluies sont attendues au mois de septembre. Dakar, Omar Ouamane, France Inter.
Reportage à retrouver en longueur et en images sur franceinter.fr.
La politique en France et la présidentielle en ligne de mire.
Primaire ou pas, la question agite à droite comme à gauche. L'université d'été du PS s'est ouverte hier à Blois et il y a un vrai débat, tous les scénarios dans la tête des ténors, sans tabou visiblement, Laurence Perron.
La direction du PS le jure, on a parié la primaire d'un trait de plume. La question de la désignation à la candidature présidentielle est encore en débat. Pierre Jouvet, porte-parole socialiste.
Le Conseil national, qui est le parlement du parti, fixera de manière démocratique les modalités, le choix, la date, comme on le fait d'ailleurs pour toutes les élections.
Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du parti sous Hollande, s'est vu un temps dans le costume présidentiel. Il a désormais plutôt rallié le camp Hidalgo.
Moi, je dis que dans l'état actuel de la gauche, vaut mieux faire simple. Si une candidature s'impose, comme celle d'Anne Hidalgo, on se met tous derrière. Si Anne estime que les conditions ne sont pas réunies, elle le dira, et à ce moment-là, on fera tranquillement une primaire. Moi, j'en serai. Je suppose que Stéphane Le Foll aussi.
Stéphane Le Foll, l'ancien ministre hollandais, qui considère que l'hypothèse Hidalgo n'est pas une martingale politique.
Cambadélis, il faut toujours partir de son hypothèse de base. En gros, les Verts choisissent le mauvais candidat, donc ils vont être très bas dans les sondages. Donc, il y a un moment à la fin de l'année où les Verts vont se dire, bah, attends, merde, on va pas faire 2%, 3%. Donc, on va aller vers Hidalgo. Mélenchon va s'effondrer. Et donc, Hidalgo, tout est possible. Elle peut même gagner la présidentielle. Très bien. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui va se passer chez les Verts?
Anne Hidalgo le sait, son chemin vers 2022 n'a vraiment rien d'une voie pavée de rose.
Et la semaine est décisive à droite pour une éventuelle primaire. Éric Ciotti annonce sa candidature ce matin. On attend de savoir ce que va décider Laurent Wauquiez, notamment ce week-end. Il va falloir être transparent. Les fabricants de produits contenant des perturbateurs endocriniens vont être obligés d'en informer le consommateur dès 2022. Le décret a été publié hier, Marion Ferrer.
Parabènes, téflon, phtalates, les perturbateurs endocriniens sont partout autour de nous, dans les jouets, les biberons, les plastiques, dans les cosmétiques et les produits agricoles. Des molécules innombrables qui impactent notre système hormonal, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la reproduction ou le développement neurologique. Depuis 5 ans, l'ANSES travaille sur une classification. 10 perturbateurs endocriniens sont analysés chaque année. 3 ont déjà été signalés comme dangereux pour l'homme, dont les bisphénols A et B. Au total, plusieurs centaines de substances seront étudiées et à partir du 1er janvier prochain, les fabricants devront impérativement signaler l'usage de ces molécules. Un fichier disponible en ligne, alimenté régulièrement par les industriels et en accès libre pour le public. Mais ce n'est pas anodin. Uniquement en ligne, en magasin, dans les rayons, il n'y aura aucun pictogramme spécial pour le consommateur. Autre problème, les perturbateurs endocriniens sont souvent remplacés par d'autres substances qui se révèlent tout aussi néfastes.
Explication signée Marion Ferrer.
8h15, le handicap mental a du mal à se faire une place aux Jeux paralympiques.
Les athlètes déficients mentaux font partie d'une catégorie à part. Ils ne peuvent figurer que dans trois sports, la natation, l'athlétisme et le tennis de table. Et leur entrée dans le monde paralympique est assez récente finalement. C'est le reportage à Tokyo de Guillaume Batin.
Sur les 137 athlètes de la délégation française, ils sont seulement 6 dans la catégorie des déficients intellectuels. Leurs entraînements sont faits sur mesure et les accompagner vers la performance est un travail minutieux d'écoute et de patience. Marc Truffaut est le président de la Fédération française de sport adapté.
Il faut apprendre à les connaître, à décrypter leur langage, ce à quoi surtout ils donnent du sens, d'adapter au maximum nos consignes. Et puis, c'est un gros travail d'observation, surtout en amont, pour voir comment la personne se comporte, comment elle est.
Marc Truffaut s'occupe à Tokyo en particulier de Gloria Agblé-Magnon, lanceuse de poids.
Elle a été plusieurs fois titrée au championnat du monde, c'est une des meilleures mondiales, la deuxième perf mondiale, mais à certains moments, ça arrive encore au mois de juin, elle est dans une chambre d'appel et puis il se passe quelque chose, et on ne sait pas forcément quoi, et tout d'un coup, elle se referme sur elle-même et elle passe complètement à côté de son concours. Donc, il faut réussir à créer de la confiance et surtout à identifier ce à quoi ils donnent du sens pour pouvoir les remettre dans le profil où ils vont performer.
Après le scandale de Sydney en 2000, où l'équipe de basket espagnole jouait avec 10 valides sur 12 en équipe paralympique, le CIO procède désormais à des tests de quotient intellectuel, de temps de réaction ou de mémoire avant de valider une participation.
Guillaume Batin, après les incidents du match Nice-OM, les premières décisions de la Ligue de foot hier soir, huis clos pour le match des Niçois face à Bordeaux samedi et suspension pour le préparateur physique de l'Olympique de Marseille filmé en train de frapper un supporter descendu sur la pelouse. Et puis on se doutait que les enchères allaient monter. Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne ferme plus la porte au transfert de Kylian Mbappé à Madrid mais veut au minimum 200 millions d'euros, 40 millions de plus que ce que propose le Real Madrid pour l'instant.
C'était le journal d'Hélène Philly. Le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Marie-Pierre Planchon, changement d'ambiance au nord.
Et oui, Hélène, à cause d'une perturbation peu active descendue de la mer du Nord, eh bien, le jour s'est levé sous un ciel nuageux de la Normandie au Hauts-de-France, au bassin parisien jusqu'à l'Alsace, donnant parfois même quelques gouttes, alors que de la Bretagne à la Bourgogne, vous n'aurez que quelques bourgeonnements laissant place à de belles éclaircies matinales. En revanche, eh bien, le soleil brille déjà au sud de ces régions dans une fraîcheur matinale, hein, dans la Creuse, avec seulement 6 degrés à Guéret, 8 à Nevers, contraste avec les 20 à Bastia et 22 à Menton. Il fait 14 à Cognac, à Paris et Valence.
Cet après-midi, Marie-Pierre, la perturbation gagne du terrain.
Et oui, et le ciel sera de plus en plus gris sur le nord de la Bretagne, à l'Orléanais jusqu'au Jura, alors que les éclaircies reviendront en journée au nord de la Seine. Et votre après-midi restera estival au sud de ces régions, sous le vent, autour de la Grande Bleue, avec Tramontane et le Mistral dans la vallée du Rhône, et le vent d'ouest sur les côtes varoises au Cap-Corse, qui va se renforcer jusqu'à 80 km par heure en soirée. Les températures feront le grand écart, hein, entre les 18 à Dieppe et les 32 attendus à Nîmes, pas plus de 19 à Langres, 20 au Mont-Saint-Michel ou à Lille. Paris perdra 3 degrés avec seulement 22, il fera 24 à Bourges, 26 à Lyon, 29 à Ajaccio, 30 à Perpignan, 31 à Toulouse comme à Saint-Tropez.
Marie-Pierre, on se dit à tout à l'heure. France Inter, 8h18, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere.
Huawei, Dubaï.
Wahdahou, Nsouria. Sur France Inter.
Avec vous, Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
À Kaboul, ne reste plus que quelques jours avant la fin de l'opération d'évacuation.
Oui, une opération qui a commencé le 14 août et qui, pour les États-Unis, s'achèvera le 31. Mais pour les alliés des États-Unis, la fenêtre d'évacuation est quasi close. Washington ayant demandé quelques jours sans autres opérations que les leurs. Des jours durant, ce pont aérien aura été filmé, commenté et surtout critiqué par les médias du monde entier. Les images de chaos aux abords de l'aéroport, de bébés littéralement jetés par-dessus l'enceinte barbelée, ont fait le tour du monde. Pourtant, si l'on regarde froidement les chiffres, peu d'opérations de sauvetage d'une telle envergure n'auraient été organisées dans l'histoire récente en si peu de temps. À eux seuls, les États-Unis ont évacué plus de 70 000 personnes à raison d'un vol toutes les 45 minutes, un véritable exploit en tout. Et ce, jusqu'au 31 août, Washington aura extrait plus de 100 000 personnes à elle seule. La Grande-Bretagne aura aussi réussi l'exploit d'en ajouter 10 000 de plus. La France, environ 1 500, même si Paris refuse toujours de communiquer sur ses propres chiffres.
Pourquoi ne pas repousser cette date de
quelques jours encore.
Surtout lorsque l'on sait qu'en tout, il faudrait, selon les estimations de la presse états-unienne, en évacuer le triple. C'est d'ailleurs ce qu'ont demandé en chœur Londres et Paris au président Biden, négocier quelques jours de plus avec les talibans. Mais c'est une demande parfaitement rhétorique et un peu hypocrite pour tout dire, parce que tout le monde sait que la Maison-Blanche ne peut répondre que par la négative, et ce pour plusieurs raisons. La plus simple à comprendre, pacta sunt servanda, les traités doivent être respectés. Les États-Unis ont signé en février 2020 un accord de retrait avec les talibans qui ont rempli leur part du contrat. Les États-Unis honorent la leur, ni plus ni moins. De plus, négocier une extension de ce délai en position d'infériorité totale n'améliorera pas beaucoup le nombre total des évacués. Enfin, les États-Unis veulent éloigner ces images humiliantes de fuites éperdues des commémorations à venir du 11 septembre 2001.
C'est donc, Anthony, une question d'image ?
C'est beaucoup plus que cela. Il est difficile de comprendre la raideur de la Maison Blanche sur ce sujet et sa sensibilité à ces images de défaite si l'on n'a pas en tête qu'en 20 ans, 800 000 jeunes Américains ont participé à cette guerre en Afghanistan. Plus encore, un homme adulte sur 7 est un ancien combattant aux États-Unis. La fameuse phrase que tous les habitués des séries états-uniennes ont l'habitude d'entendre, hein, « Thank you for your service »,« Merci pour votre engagement », est vraiment une phrase du quotidien là-bas. Les vétérans aux États-Unis ne sont pas de vieux messieurs qui tiennent des drapeaux deux fois l'an devant des monuments aux morts de guerre passée. Ils sont souvent encore jeunes et actifs et pèsent sur les élections et le débat public. Pas un jour sans qu'un média états-unien ne les interroge sur ce que The Economist appelle déjà la débâcle Biden. C'est tout cela qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se demande pourquoi les États-Unis veulent en finir au plus vite avec cette humiliante évacuation.
Merci Anthony Bélanger. La rentrée littéraire dans le grand entretien à suivre. Restez avec nous sur France Inter.